Philosophie morale, Père Philippe, 15 décembre 1982, Rimont.
Ne pourriez-vous pas mettre comme 11e dimension de l'amour la joie? Non. La joie est une propriété, une conséquence, ce n'est pas l'amour. C'est important de voir ça. L'amour est au-delà de la joie et de la douleur, de la souffrance, de la tristesse. C'est au-delà. Évidemment, la joie est plus proche de l'amour. C'est une propriété, tandis que je ne dirais pas que la souffrance est une propriété de l'amour. C'est une propriété, c'est une conséquence. Ce n'est pas ce qui constitue l'amour. Or, dans les dimensions, on essaie de comprendre ce qui constitue l'amour. C'est ça qu'il faut bien saisir. Alors, on pose encore cette question. Nous y reviendrons sur ces 12 dimensions de l'amour, pour voir si c'est bien ça. Je vous ai dit d'y réfléchir, mais ça met du temps. Tout amour présuppose une connaissance. Qu'est-ce que cette connaissance, ce connaître antérieur à l'amour? L'amour n'est-il pas immédiat? L'amour instinctif est immédiat. Instinctivement, il y a c'est pour ça que dans l'amour instinctif, il n'y a pas de connaissance qui présuppose. Immédiatement, on est en contact avec l'instinct qui nous porte sur l'aliment. On ne le quitte pas. Alors, l'instinct qui nous porte sur l'aliment, qui fait que nous avons une connaissance instinctive de l'aliment. Et nous sommes pris, par un point de vue, quelque chose qui nous attire, ou au contraire, quelque chose qui nous rebute. C'est l'instinct, ça. Chose très curieuse. Dès qu'il s'agit d'amour passionnel, il y a une certaine connaissance. Une connaissance sensible. L'amour passionnel repose sur une connaissance sensible. Alors prenez l'amour passionnel. Je puis avoir à l'égard d'une nourriture aussi. Je peux avoir un amour passionnel à l'égard du bon vin. C'est grec ça. Les Grecs avaient un amour passionnel vis-à-vis du bon vin. Alors, je peux avoir un amour de concupiscence à l'égard du bon vin. Alors, quand j'ai un amour de concupiscence à l'égard du bon vin, mais il faut une certaine connaissance du vin pour avoir ça. Pas seulement l'instinct, mais une connaissance. Et la connaissance sera là pour que je puisse aimer, goûter ce vin. Une certaine connaissance. À l'intérieur de tout amour passionnel. Et quand il s'agit alors de l'amour spirituel, de l'ami, il y a une connaissance de l'homme, de la personne humaine, la connaissance de ses qualités. Ordinairement, c'est comme ça que ça se passe, c'est la connaissance de ses qualités qui m'attire. Et que je suis attiré par cette personne. Alors, l'attraction de cette personne, cette personne en tant qu'elle est mon bien, cette attraction dépasse la connaissance, va plus loin que la connaissance. Mais la connaissance permet à cette attraction de se réaliser. Mais alors, c'est le lien entre connaissance et amour qui sont très intimes, qui sont très intimes et qui sont d'une certaine manière assez... Je peux les distinguer, mais ils sont inséparables. Donc, il faut bien comprendre, c'est une analyse que je fais ici. C'est une analyse pour dire que tout amour présuppose une connaissance. Tout amour présuppose une connaissance. Qu'il s'agisse d'une connaissance instinctive, qu'il s'agisse d'une connaissance sensible, qu'il s'agisse d'une connaissance intellectuelle. On reverra cela, parce que c'est très important, les rapports entre l'amour et la connaissance. Donc, qu'est-ce que c'est que cette connaissance, se connaître antérieur à l'amour? L'amour n'est-il pas immédiat? La connaissance ne supprime pas l'immédiateté de l'amour. Heureusement. il fallait que l'amour instinctif pour qu'il soit immédiat, l'amour spirituel est encore plus immédiat que l'amour instinctif. Ne regarde-t-on pas la dimension amour, oui, ne regarde-t-on pas la dimension amour en éthique? Si oui, comment peut-on penser faire une métaphysique de l'amour? Oui, on fait une métaphysique du bien, en réalité, hein, on fait une métaphysique du bien et une éthique de l'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est plus en éthique qu'on regarde les dimensions de l'amour. C'est pour ça que je l'ai fait avec vous. Et en métaphysique, on fait la dimension du bien. Alors je peux parallèlement au bien regarder le point de vue de l'amour. Vous voyez, c'est ceux qui aiment la métaphysique, c'est l'énergeia et l'entelekeia. L'énergeia, c'est le bien, et l'entelekeia, c'est l'amour. C'est les deux actes qui sont présents l'un par rapport à l'autre. Alors je peux regarder les dimensions de cet acte, qui est le point de vue proprement de l'amour. Et je peux normalement faire une métaphysique du bien. Et c'est en faisant la métaphysique du bien que je pourrai comprendre si les 12 notes que nous avons vues au point de vue de l'amour sont justes. Mais il faut faire une métaphysique du bien. Ben, si nous avons le temps, nous la ferons. Vous me le rappellerez à ce moment-là, parce que c'est important. Après tout ce que nous avons dit au dernier cours, peut-on encore dire que l'amour est quelque chose d'indicible et ineffable? Tout à fait. D'autant plus. C'est encore plus indicible et ineffable. C'est pour ça qu'on a été obligé de donner 12 notes pour essayer de préciser ce que c'est que l'amour. Si l'amour pouvait saisir directement, j'aurais pas besoin de ce bombardement pour essayer de saisir. C'est parce que, justement, j'ai beaucoup de peine de saisir ce que c'est que l'amour, et que l'amour est ineffable. Comme l'être est ineffable. Je ne peux pas dire ce que c'est que l'être. C'est pour ça que j'ai dit que l'être est analogique. Alors je dis les modes de l'être. Et l'amour est ineffable. Et je dis les modes de l'amour. Je dis comme les grandes déterminations essentielles à l'amour, et qui sont plus proches de l'amour que les catégories de l'être. Plus proche. L'amour a une richesse telle que immédiatement il éclate dans ces 12 dimensions. Les 12 étoiles, hein, qui sont les grandes dimensions de l'amour et qui sont comme des jaillissements de ce mystère de l'amour. Alors, c'est pour ça que c'est ineffable. L'amour est ineffable. Même quand on a vu ces 12 dimensions, l'amour est ineffable. Gardez bien ça, croyez bien que l'amour est ineffable et que je n'enlève rien en disant ces 12 dimensions, je n'enlève rien à ce que représente proprement l'amour. Alors nous allons continuer, si vous voulez, de faire cette analyse que nous avions commencé de faire à propos de l'amour. Donc, le premier moment de l'analyse de l'amour d'amitié, c'est de regarder l'amour qui porte sur le bien spirituel, c'est-à-dire la personne. De façon vague, hein, très vague, je ne dis pas du tout que j'aime une personne, non, c'est la personne qui m'attire. Et elle est mon bien spirituel. Et donc cet amour spirituel, il est volontaire. Il est volontaire dans un sens très particulier, c'est parce qu'il est la première attraction de ma volonté. Cet amour premier qui se porte vers le bien spirituel, qui se porte vers la personne, je vous ai dit, il faut toujours se rappeler, génétiquement, c'est la mère, et selon l'ordre de perfection, c'est la vie. La mère, c'est vrai, c'est le premier amour que, de fait, l'homme connaît génétiquement. C'est l'amour du tout petit enfant pour sa mère. Et cet amour du tout petit enfant pour sa mère reste obscur. Et c'est pour ça que je ne fais pas partir ma philosophie et mon éthique à partir de là. Mais je vous ai dit qu'il y a là quelque chose de très important à saisir pour comprendre le fondement d'une éthique familiale. Et le fondement d'une éthique familiale, c'est cet amour du tout petit enfant vis-à-vis de sa mère. C'est donc quelque chose de très enfoui, mais qui permettra quand même à la mère d'avoir le sens de sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant, et pour l'enfant de répondre à cette responsabilité, et donc d'être lié à sa mère et de recevoir sa première éducation de sa mère. Et cette première éducation que l'enfant reçoit de sa mère, qui implique une certaine obéissance, ce sera l'éthique familiale, très reliée aux éthiques traditionnelles religieuses. Mais dans l'éthique religieuse, il faut bien distinguer cet aspect éthique familiale. Parce que certaines éthiques ne sont que des éthiques familiales. Il y a une tradition familiale qui peut être qu'au niveau familial, comme père. Donc, et ça repose sur ce premier amour qui génétiquement est premier. Alors, génétique, il est premier. Mais il demeure très imparfait. Tandis que nous essayons de faire une philosophie éthique en nous basant sur ce second amour. Parce que celui-là, il est parfait. Il est explicite et il est parfait. C'est la différence entre le fondement et la fin. Si l'éthique était fondamentale, elle se baserait sur cet amour de la mère, de l'enfant pour sa mère. Ça, c'est une éthique fondamentale. C'est pour ça que je dis l'éthique familiale. Mais si l'éthique doit nous faire comprendre ce que l'homme est capable de découvrir pour sa finalité, c'est plus une éthique fondamentale, c'est une éthique de la finalité. Quand l'enfant aime sa mère, il ne découvre pas du tout sa mère comme sa femme. Il découvre sa mère comme le milieu nécessaire à l'épanouissement de sa vie. Pas tout à fait la même chose. Comme le milieu nécessaire à l'épanouissement de sa vie, c'est pas encore ça. L'enfant n'aime pas sa mère comme sa propre femme. Pas du tout. C'est un point de vue bien plus utilitaire. Et ça, c'est important. Il y a un premier amour qui est utilitaire. C'est ce besoin profond de la mère, de l'enfant lié à sa mère. Et au fond, c'est une éthique familiale qui est basée sur les besoins et les nécessités. On a besoin de sa mère, on a besoin du milieu familial. Tandis que nous essayons de comprendre une éthique qui a une beaucoup plus grande noblesse, c'est l'éthique de la personne humaine qui s'épanouit avec, grâce à l'amour. Il faut bien comprendre ça. Alors, quand je regarde l'amour spirituel fondamental avec ses 12 notes, il existe déjà chez l'enfant, le tout petit, mais de façon très imparfaite. Parce que l'amour n'est parfaitement amour que dans l'amour d'amitié dont j'ai conscience avec l'ami. Donc nous avons vu la dernière fois ces 12 notes. Je dis que maintenant cet amour implique une connaissance. C'est très vrai, une connaissance. Une connaissance vague, pas précise. La connaissance de cette personne, de ce bien spirituel. Et donc cette connaissance porte sur les qualités de cette personne. Et au-delà de ses qualités, sur le sujet de ses qualités. Parce que ces qualités ne sont pas idéales. Elles existent sur Pierre ou Jacques, si vous aimez mieux, n'est-ce pas ? Elles existent à partir d'un sujet, à partir d'une réalité, d'une res subsistante, ces qualités. Donc, cette connaissance vague porte sur ces qualités, les qualités de Pierre, et ces qualités de Pierre éveillent en moi un amour pour Pierre. Pas un amour des qualités, mais un amour pour Pierre. Et donc, tout de suite, l'amour spirituel porte sur la personne, au-delà des qualités. Ce qui est aussi très important à comprendre. Cet amour spirituel porte sur la personne. Alors, quand il s'agit de l'enfant, vous voyez, je fais un nota bene, toujours l'enfant, c'est un nota bene. Hein. C'est pour essayer d'arriver à une éthique familiale. Ce serait intéressant d'arriver à une éthique familiale. Mais j'aime mieux regarder tout de suite l'éthique tout court. On verra ensuite les diverses modalités d'éthique. Alors, ce serait très intéressant de savoir si l'enfant, dans son amour pour sa mère, ça porte vraiment sur la personne. ou simplement sur le besoin. Qualité ou besoin? Besoin de l'aliment? Besoin du milieu? Du milieu chaud? Du lit? La mère, elle est le nid, si l'enfant. Le besoin, le nid. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Alors, à travers ce besoin, le concupiscible éveillé va éveiller un amour spirituel. Ça, c'est sûr. De sorte qu'il y a un premier amour spirituel qui porte bien sur la mère. Ça, je crois, ça reste confus. D'abord, l'enfant ne peut pas y répondre. Hein. Quand vous demandez à un gosse qui est avec sa mère, est-ce que tu aimes ta mère comme une personne? Le dialogue philosophique est rapidement arrêté. Hein. Ça ne dure pas très longtemps. Parce que je ne crois pas que l'enfant, par l'amour qu'il a de sa mère, a l'intuition de l'être. Maritain qui croyait qu'elle avait l'intuition de l'être dans le berceau. Hein. Mais ça, c'est une projection. Projection de Maritain sur l'enfant. Parce que je ne crois pas du tout qu'il a l'intuition de l'être. Il aime, il y a un besoin qui est autre. Alors c'est ce que je vous avais dit, le sourire indique le dépassement du besoin de l'aliment, le dépassement du milieu, parce que le sourire n'est pas pour le lait maternel, n'est pas pour le milieu, n'est pas pour le nid, c'est pour la mère. Oui, c'est la personne. Et c'est là où on voit qu'il y a un lien avec une personne. Donc, cet amour porte sur une personne, dépasse. La connaissance porte sur les qualités et sur le besoin, ça c'est sûr. Il y a une certaine connaissance quasi instinctive pour l'enfant, mais une certaine connaissance instinctive vis-à-vis de ce milieu pour le dépassement vis-à-vis de la mère. Donc l'amour va plus loin que la connaissance. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que l'amour n'est pas spécifié par la connaissance, il est spécifié par le bien. Spécifié par le bien. C'est pour ça que les dimensions de l'amour spirituel, vous voyez, doivent reposer sur les notes particulières du bien. Et ce serait intéressant à voir. Je ne le fais pas ici, parce que ça c'est plus de la métaphysique. Mais c'est intéressant, en métaphysique nous le ferons. On fera la métaphysique du bien. Donc la connaissance est une condition sine qua non à l'apparition de l'amour. Mais la connaissance ne spécifie pas l'amour. C'est pour ça que la parole de Saint Bernard reste si vraie. La mesure de l'amour, c'est l'amour. La mesure de l'amour, ce n'est pas la connaissance que j'ai d'être que j'aime. Si je ramène toujours mon amour à la connaissance que j'ai de l'être que j'aime, eh bien très vite, mon amour disparaîtra. Parce que je m'apercevrai que l'être que j'aime, il a bien des qualités, mais il a aussi des défauts. Impossible autrement. Eh bien, découvrir les défauts de celui qu'on aime ne diminue en rien l'amour que j'ai pour lui. Ça, c'est sublime. Et c'est vrai, c'est ça l'amour. C'est ça le problème de l'amour. C'est même là où, si vous voyez que votre amour est vrai. Parce que si, ayant découvert les défauts, vous dites, ah, c'est ça. À ce moment-là, ça prouve que vous n'aimiez que ses qualités. Ou j'ai plus besoin de toi. Je tourne le dos. Ça prouve que vous ne l'aimiez qu'en fonction des besoins. Et vous n'aimiez pas la personne. Et c'est pour ça que chez l'enfant, vous voyez, le besoin est beaucoup plus lié à la personne que chez l'adulte lorsqu'il choisit un ami. Et c'est pour ça que très vite, il faudra que l'amour instinctif de l'enfant vis-à-vis de la mère se transforme en un amour de choix. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand l'enfant n'aura plus besoin de sa mère, il la quittera. Parce que cet amour n'est pas assez fort pour porter sur la personne. C'est un amour trop instinctif. Il est spirituel, mais il est enveloppé du point de vue de l'instinct. Et alors, autrement, on n'expliquerait pas comment un enfant peut quitter sa mère. Ça arrive. Ça arrive quand le cordon ombilical est coupé, que l'enfant tourne le dos. Il n'a plus besoin de sa mère. La mère n'est plus le nid. Ou la mère devient le nid trop étroit et trop accaparant, et alors l'enfant quitte. voyez, si cet amour atteignait vraiment la personne, il ne pourrait pas. Alors vous allez me dire, dans l'amour d'amitié, c'est la même chose. Dans un véritable amour d'amitié, non. Dans un faux amour d'amitié, oui, ça peut arriver. C'est pas parce qu'il y a des erreurs dans l'amour d'amitié qu'il n'y a pas un véritable amour d'amitié qui porte sur la personne. Mais quand ça porte sur la personne, vous découvrez les limites et les défauts de votre ami, vous l'aimez encore plus. Pas nécessairement, hein, comprenez bien. Mais ça peut être un moyen de l'aimer plus. Vous voyez, et de comprendre, dire, ah, mais oui, c'est vrai, c'est, je vois des choses que je ne voyais pas au début. Quand la passion est très forte au début, il y a des écailles. Et quand les écailles tombent, ben, je m'aperçois que les qualités de la personne sont, comme toutes les qualités c'est, de toute personne, elles ont un envers de médaille. Donc, ça, c'est propre de cet amour d'amitié, de cet amour premier. Il porte sur le bien. Je n'insiste pas plus. Je voudrais voir maintenant, second moment, le passage de cet amour à l'intention morale. C'est très important de comprendre ça. Le passage de l'intention porte sur la fin. Le bien personnel, la personne que j'aime, qui est mon bien, qui m'attire, puisque le propre du bien, c'est d'attirer, puisque la première chose de l'amour, c'est l'extase, donc de se laisser attirer, ce bien va devenir ma fin. Alors, c'est un passage très intéressant. Et quand vous regardez dans l'éthique d'Aristote, vous voyez bien qu'Aristote regarde d'abord le bien, puis la fin. Je ne comprends pas ce que c'est que la fin si je n'ai pas vu d'abord le bien. Capital. Vraiment, vous ne comprenez pas du tout ce que c'est que la fin. Toujours, le problème de la finalité, parce que c'est le problème de la finalité numéro 1, présuppose le problème de l'amour. Puisque le bien suscite l'amour, et ce bien suscité par, je veux dire, cet amour suscité par le bien, va se transformer en intention de vie. Et à partir de ce moment que ça se transforme en intention de vie, le bien devient pour moi une fin, et je suis finalisé. Ce n'est pas l'amoureux comme tel qui est finalisé. C'est celui qui aime, qui veut aimer, et qui comprend que le bien qu'il aime devient sa fin. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant et de difficile à bien saisir, parce que c'est comme toujours dans l'ordre pratique, c'est pas commode. Je crois que pour mieux le saisir, il faut comprendre la possibilité de la corruption de ce premier amour spirituel. Et ça, c'est très intéressant et c'est très important de voir cette corruption, cette possibilité de la corruption. Cette possibilité par l'imaginaire. Un amour demande de croître, parce qu'au point de départ, il naît très fort, mais fragile. Un amour demande de croître. Il demande de devenir de plus en plus fort. L'imagination peut très bien, puisqu'il y a une connaissance, l'imagination peut très bien corrompre ce premier amour et transformer ce premier amour en vénéité. Qu'est-ce que c'est que la vénéité? La vanité, c'est un amour spirituel qui est corrompu par l'imaginaire. À la place du bien personnel, va se glisser dedans un idéal. Une idée. Peut-être géniale, mais c'est quand même une idée. Et qui va empêcher le bien de continuer son attraction. Et qui va faire que ce n'est plus le bien qui m'attire, mais une idée du bien qui va me séduire. Et alors, à partir de ce moment-là, je n'ai plus, au sens strict, un amour spirituel qui va se transformer en une intention de vie, mais j'ai mon amour spirituel qui va se transformer en velléité. Mais c'est un amour qui échoue, un avortement, au sens métaphorique, bien évident, mais quand même quelque chose d'analogue. C'est cet amour qui, à la place de devenir un grand arbre, va échouer et va devenir une velléité. La velléité, vous savez bien ce que c'est, la velléité. Quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on devrait dire l'enfer est pavé de velléité. Alors là, je crois tout à fait. De velléité, mais pas de bonnes intentions. La bonne intention fait l'acte moral. Dieu regarde nos intentions plus que nos résultats. Heureusement. Dieu regarde nos intentions plus que nos résultats. Et donc, l'enfer, le ciel, c'est le domaine des bonnes intentions. Ça, c'est sûr. Tandis que la velléité, c'est un amour qui aurait dû normalement être croître et se fortifier dans une intention de vie. C'est un amour qui se tourne sur lui-même par le point de vue imaginatif. Et se tournant sur lui-même, cet amour n'est plus un amour à l'égard d'un bien. C'est à l'égard d'une idée. Et un amour à l'égard d'une idée perd toute sa force. Ça devient une velléité. Une velléité qui peut avoir un caractère très esthétique. Nous avons tous rencontré des velléités esthétiques. C'est charmant. Une journée. Mais c'est assommant après. Surtout quand vous voulez collaborer avec eux. Parce qu'ils vous claquent dans les doigts au bon moment. Forcément, ils sont velléitaires. C'est la velléité, une idée en fait. Ah oui, hier, c'est ça, mais aujourd'hui, ah, j'ai pensé à autre chose, j'ai dit, un rêve tout à fait nouveau. Alors, c'est la velléité qui reprend le dessus. Hein, c'est tout à fait quelque chose de différent. Mais c'est qu'au fond, la velléité ne s'accroche plus à un bien. Le bien est réel. C'est une personne vivante. C'est un bien réel. Un bien qui existe. Tandis que l'idée et l'idéal n'existent pas. C'est de l'ordre intentionnel, hein, nous retrouvons. C'est de l'ordre intentionnel. Et alors, la velléité, elle se nourrit d'intention. Et c'est l'imaginaire qui corrompt la volonté. Qui corrompt l'amour. Ah, qui peut en faire des bulles de savon merveilleuses, quoi. Mais ça éclate toujours un bout d'un certain temps. Ça éclate au moment où vous voulez vous en servir. Ça éclate. C'est le but du salon. Alors c'est très important de comprendre ça. Le point de vue de la velléité qui est entre les deux. Et qui fait que de fait, un amour spirituel ne devient pas une intention de vie. Alors, une intention de vie. Alors, essayons de comprendre. Parce que ça, c'est le problème très difficile. Et très important de comprendre ce passage entre le bien et la fin. Il faut réfléchir à ce que représente justement l'ami en tant qu'il est mon bien, en tant qu'il est ma fin. Pas tout à fait la même chose. Le bien donc attire. La fin, il faut la conquérir. Vous voyez, il y a un élément tout à fait nouveau dans le fait de l'intention de vie. Le bien, il m'attire et je me laisse attirer. Je me laisse prendre. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'un bien qui devient mon intention de vie, ce bien devient ma fin. C'est-à-dire que je vois, grâce à ma connaissance, l'élément de connaissance intellectuelle est beaucoup plus fort dans l'intention de vie que dans le simple amour. Là, on ne peut plus rester dans le vague. Oui, c'est parce que c'est vague que l'imagination peut s'emparer. Il ne faut pas l'oublier. C'est parce que l'amour présuppose uniquement une connaissance vague que cette connaissance vague pourra laisser la place à l'imaginaire. Et l'imaginaire pénétrant aura tout bouleversé. Tandis qu'au contraire, si cette connaissance vague devient une connaissance intellectuelle beaucoup plus précise, je vais voir que ce bien spirituel, il est loin de moi. Pour comprendre le passage du bien à la fin, première chose, je m'aperçois que ce bien spirituel, il est loin. Ah, comment comprendre ça? Je m'aperçois à ce moment-là que l'union affective n'est pas l'union effective. Ah, il y a pas mal d'éléments qui sont impliqués dans ce passage du bien à la fin. Et c'est ça, c'est important de saisir ça. C'est très important, c'est capital. Au point de vue moral, c'est capital, parce que toute la morale se noue autour d'intentions, pas autour du bien. La morale, le bien fonde la morale, mais la morale est structurée sur l'intention. C'est pour ça que l'amour fera toujours plus que la morale. C'est vrai qu'elle crie soif du Christ après avoir réalisé l'œuvre d'obéissance. Quelque chose de plus. Alors, ce quelque chose de plus, il faut bien saisir où il se situe. Et c'est justement cet amour. C'est cet amour qui est plus que le point de vue moral. Je dois étudier, du point de vue éthique, ce que c'est que l'amour. Je dois l'étudier comme un bien spirituel qui porte sur le bien. Mais je sais que mon intention morale, qui structure toute ma morale, est dépassée par ce bien. Alors, pour passer du bien à la fin, il faut donc comprendre que ce bien est lointain, il est loin. Parce qu'il y a une différence entre la connaissance, entre l'union affective que réalise l'amour. Et l'union efficace que veut réaliser celui qui aime. Vous voyez, là, nous touchons le réalisme de l'amour. L'amour ne peut pas se contenter de l'union affective, parce que l'union affective reste intentionnelle. Puisque j'aime une personne existante, je veux être uni à cette personne. Il faut que nous puissions être plus proches. Il faut que nous puissions mener une même vie, ainsi de suite. Oui. Donc il faut que l'union affective, qui est de l'ordre intentionnel, s'unisse à l'union effective. Que l'union affective demeure, c'est bien évident. L'amour demeure dans l'intention. L'amour n'est pas évacué. L'amour demeure dans l'intention de vie. Et même l'amour dans l'intention de vie va se canaliser, va se préciser, va se concrétiser, va s'incarner dans l'intention de vie. Mais l'amour implique toujours ce dynamisme profond qui dépasse toutes les intentions, qui va toujours plus loin. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la connaissance, l'union affective et l'union affective. Et il faut vouloir que cette union affective puisse se concrétiser dans une union efficace. Et c'est à ce moment-là où la connaissance de ce bien est absolument nécessaire pour comprendre que ce bien lointain peut devenir proche. Second aspect. Peut devenir proche grâce à certaines méthodes. Grâce à certains efforts, à certains buts. Donc c'est cette connaissance à l'égard du bien qui me fait considérer le bien comme fin. Comme ma fin. et le bien considéré comme ma fin va donc engendrer en moi, va transformer en moi l'amour en intention de vie. Alors, quelle différence y a-t-il entre cette intention de vie et le point de vue de l'amour? C'est que l'intention de vie mobilise toutes mes forces. L'amour ne le fait pas. Il mobilise mes forces d'une autre manière. Je suis, quand on est dans un état amoureux, nos forces sont mobilisées, mais dans une attitude de réceptivité à l'égard du bien qui m'attire. Tandis qu'au contraire, quand j'ai une intention de vie, je suis en état de tension. L'amour détend, si vous voulez, en gros, hein, l'amour détend et l'intention de vie tend. C'est ça, quand vous vous sentez trop tendu, passez, changez de vitesse, quoi, tout simplement. Il faut connaître ces vitesses. Vous passez de l'intention de vie à l'attitude amoureuse. C'est très détendant, l'attitude amoureuse. Tandis que l'intention de vie, c'est très tendant. C'est terriblement tendant. Et je comprends que, vous voyez, quand l'intention de vie n'est pas enveloppée de cet amour, on a toutes les tensions psychologiques. Toutes les tensions psychologiques qui sont diamétralement opposées par rapport à la velléité. C'est même très curieux de voir que les tensions de vie, ordinairement, commencent quand je suis en phase, quand on est en phase de velléité. Je vois, à côté de moi, ce religieux qui est détendu, velléité remarquable. Eh bien, je ferai l'inverse, moi, l'intention de vie, vous voyez. Alors, le stoïcisme va naître là. Le stoïcisme supprime cet amour et ne regarde pas l'intention de vie. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'amour et l'intention de vie craque. Parce que l'intention de vie n'est vitale que si elle n'est possible. Et elle se rajeunit tous les jours, parce que ça se rajeunit tous les jours, une intention de vie, que s'il y a cet amour. Qu'est-ce qu'il y a de cet amour? C'est la réserve, ça. C'est la réserve. Normalement, cette intention de vie, vous voyez, cet amour premier, c'est très très important, ça, parce que vous détectez là, sans être une analyse psychologique, mais ça va beaucoup plus loin qu'une analyse psychologique, parce que c'est l'analyse de l'être moral. Or, nous sommes des êtres qui voulons être, des êtres qui voulons aimer. Et si on veut aimer, on est un être moral. Ça, c'est pas impossible autrement. Alors, il faut comprendre, justement, que c'est très, très important, cette intention de vie. Mais cette intention de vie, si elle porte sur un bien, qui est le bien suprême, peut prendre alors une intensité extraordinaire et mobiliser tous mes efforts. Alors, je deviens... Tout ce qui est en moi de vital est mobilisé par ça. C'est le propre de l'intention de vie. C'est de mobiliser tout pour courir vers le bien-aimé. C'est de courir vers celui que j'aime. Oui. Alors, toutes les intentions de vie, et c'est la course. C'est ça le problème. D'intention. Tandis que l'amour, ce n'est pas la course. C'est j'aime celui que j'aime. Et je suis aimé de celui-là. C'est le repos. C'est le repos. Un repos, comprenez bien, un repos brûlant, un repos aimant, mais c'est la capacité que j'ai de recevoir l'autre, et qu'il demeure en moi et que je demeure en lui. Tandis qu'au contraire, l'intention de vie, c'est la mobilisation qui se fait par l'intelligence, la mobilisation de tous mes efforts pour faire que l'intention affective puisse avoir son caractère réaliste, de s'unir à une intention efficace. Et que ces deux, l'union affective puisse s'unir à l'union efficiente. Et que ces deux unions puissent s'unir. Vous voyez un peu la démarche, c'est important ça. Alors, précisons encore que dans l'intention de vie, il y a immédiatement tout un ordre qui va se préciser. ou si vous aimez mieux, une organisation. L'intention de vie ordonne en moi, puisque ça mobilise mes forces. Et ça les mobilise d'une façon intelligente. Donc l'intention de vie ordonne en moi toutes mes capacités de réalisation. Ça les ordonne avec intelligence. C'est ça le propre de l'intention. Il y a un ordre dans l'intention. Toutes mes capacités de vie sont ordonnées en vue de rejoindre, de faire que l'union affective rejoigne l'union effective. L'union réelle. Alors, ça mobilise toutes mes facultés, toutes mes capacités. Oui, donc, l'intention de vie, c'est un acte très, très riche. C'est de savoir que je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela, et ainsi de suite. L'intention de vie mobilise toutes nos diverses facultés, le temps que nous avons, toutes les méthodes que nous pouvons avoir, ça mobilise tout ça en vue de poursuivre, de courir vers celui que j'aime. Très puissant l'intention de vie. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant en nous. Hein. Et c'est le premier moment moral. Toute la grandeur du point de vue moral. C'est la première décision profonde. Vous voyez tout de suite le problème qui se pose. Est-ce que cette intention de vie est libre? Ou est-ce qu'elle s'impose? Eh bien, je dis, elle est nécessairement libre. Le bien s'impose, mais jamais la fin. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne comprend pas. La différence entre la fin et le bien, c'est très important de comprendre la différence entre le bien et la fin. Le bien s'impose à moi. Je ne suis pas libre de ce premier amour. Non, je ne suis pas libre. Je suis libre de l'accepter ou de le refuser. Je suis libre de faire que ce premier amour devienne une intention de vie. Alors là, oui, je suis libre de ça. Et alors à ce moment-là, ça fait comprendre comment l'intention de vie, vous voyez, implique la liberté. C'est en ce sens-là qu'on peut dire, en comprenant bien, comment dans cette intention de vie, il y a un choix. C'est ce qu'on dira. Il y a une décision. J'ai décidé comme ça. Il y a un choix, une décision. Mais on dira intention en fonction de la fin. Mais ça présuppose, c'est comme un choix. Je choisis cet amour spirituel à l'égard de ce bien pour être ce qui va finaliser toute ma vie, ce qui va donner à toute ma vie, à toutes les efforts que je fais, leur signification profonde. De sorte que cette intention de vie qui est libre, qui va mobiliser toutes mes forces, qui va se porter sur ce bien comme ma fin, va aussi être ce qui va donner un sens à ma vie. Tout ça provient de mon intention de vie. Ma vie n'a de sens qu'en fonction de mon intention de vie. C'est pas à cause de l'amour. Enfin, c'est curieux. C'est pas à cause de l'amour. Mais celui qui rôde autour d'un couvent en disant c'est un miracle, c'est beau, c'est merveilleux, tourne autour. Pas comme les soldats de Jéricho, pas comme à Jéricho, cette fois pour que les murs dégagent, mais il tourne autour, en disant c'est magnifique, mais il n'entre jamais. Velléité. Et ça ne donne pas de sens à sa vie. L'amour ne donne pas de sens. C'est curieux, l'amour est au-dessus de la signification. Quand vous voulez chercher une signification à votre amour, vous tuez votre amour. L'amour n'a pas de signification. Personne n'est une personne. C'est plus que de l'ordre de la signification. La signification, c'est toujours l'intelligence qui intervient. J'aime pour aimer. Je n'aime pas pour avoir une signification à la vie. C'est un rôle d'amour. Et si vous aimiez pour que votre vie ait une signification, ça prouverait que vous mettriez le bien relatif à vous. Tandis qu'au contraire, quand le bien devient ma fin, il donne à ma vie sa signification. Parce que le bien devient relatif à moi par la fin. C'est tout l'aspect subjectif de la finalité qui donne une signification à ma vie. Et c'est vrai que la fin donne une signification à la vie. Et une intention de vie donne une signification à la vie. Tant que je n'ai pas une intention de vie, je reste en face d'un amour. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est pour ça, qu'il est dit dans l'Écriture, hein, et dans l'Évangile, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » parce que ça, c'est uniquement l'amour. Tandis que choisir le bien comme ma fin, c'est-à-dire avoir une intention de vie, à ce moment-là, le bien prend pour moi une signification. Et cette signification première dans l'ordre pratique, c'est que ce bien devient ma fin. Et parce qu'il devient ma fin, il mobilise toutes mes énergies. Et il est capable de mobiliser toutes mes énergies. C'est la fin qui capte. C'est le bien qui, au fond, me finalise à ce moment-là et donne une signification. Donc, il faut ici ajouter, parce que c'est important, la velléité n'était là en dehors. Hein. Ça ne fait pas partie des actes humains. Tandis qu'il faut mettre ici une certaine liberté. L'intention, non, il ne faut pas le mettre là. Il faut mettre un temps. Je supprime velléité. Mais je dis que cette connaissance vague que j'ai de ce bien, je peux accepter ou pas. Alors je mettrai deux. J'y adhère. Une adhésion. J'y adhère ou je dis non. J'aime quelqu'un qui n'est pas disponible. J'aime quelqu'un qui est déjà engagé dans un autre amour, qui n'est pas disponible. Eh bien, je peux reconnaître que je l'aime, que j'étais saisi par cette personne, mystérieusement. J'étais saisi, je ne sais pas pourquoi, je ne raisonne pas, ça ne donne pas de sens à ma vie. Mais j'étais saisi par cette personne, c'est tombé dessus comme ça, on ne sait pas trop comment. Mais c'est tombé dessus, j'en peux rien, moi. Ah oui, mais est-ce que vous êtes libre de la revoir ou pas la voir? Vous êtes libre intérieurement d'accepter. C'est pas commode, ça c'est sûr, ça peut être héroïque. Ça peut être héroïque, mais je suis libre d'accepter ou pas accepter. C'est là où il y a l'adhésion, vous voyez, c'est une liberté dans l'ordre de l'adhésion. Cet amour s'est posé. C'est posé à moi de cette manière-là, mais je suis libre de l'accepter ou pas l'accepter. Donc il y a une adhésion. Et c'est cette adhésion libre nécessaire pour que l'intention puisse naître. À partir de cette adhésion libre, j'accepte cet amour. Je sais que cet amour va se transformer en moi, peut-être très vite. Hein. C'est une analyse que je fais. Donc, je ne fais pas comme des actes. Ça peut présupposer des actes successifs. Mais ça peut se faire aussi de façon extrêmement rapide. C'est une analyse qui est en dehors du temps que je fais là. C'est simplement pour essayer de comprendre, exactement comme j'ai fait pour le travail, pour comprendre de fait qu'il y a là intervention d'un nouvel élément, d'une nouvelle connaissance. Et cette nouvelle connaissance fait que je suis capable de regarder ce bien qui m'attire comme ce qui ordonnera toute ma vie. Ça va ordonner toute ma vie. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'amour permet d'ordonner toute ma vie. Parce que l'amour que j'ai vis-à-vis du bien, que j'accepte, va pouvoir me faire comprendre que ce bien que j'accepte, que j'aime, sera ma fin. Il y a quelque chose de plus quand je dis ça. Parce qu'à partir de là, il m'ordonne. Et pour pouvoir dire ça, il faut justement ce que je vous disais. Il faut que la connaissance regarde ce bien comme lointain. Je vois la différence entre les deux et j'essaie justement de l'aimer. Thank you.